Soyez les bienvenus, il est 8h sur France Inter. L'heure du journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une de l'actualité, une nouvelle soirée animée à l'Assemblée nationale où s'est invité un débat sur une opération anti-migrants menée par des militants d'extrême droite dans les Hautes-Alpes. L'Assemblée où le projet de loi asile-immigration n'a toujours pas été voté. À suivre, le retour au calme dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Un calme peut être synonyme de retour à la normale. Dans l'actualité également, Ouvéa, il y a 30 ans de cela, les Calédoniens commémorent aujourd'hui ces tragiques événements qui avaient fait 25 morts. Reprise de la grève à la SNCF dès ce soir, il s'agit du 10e jour de mobilisation pour les cheminots obligés de s'organiser pour faire face au manque à gagner. Enfin, côté sport, du tennis féminin avec une égalité pour le moment dans la Fed Cup, un partout entre françaises et américaines, mais aussi du football avec le nouveau faux pas de Monaco et du cyclisme avec la classique Liège-Bastogne-Liège. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard. C'est donc une véritable course de lenteur, doublée d'une guerre des tranchées qui se sont installées à l'Assemblée nationale pour l'étude et le vote attendu normalement dans la soirée du projet de loi asile-immigration. Une course de lenteur ponctuée d'amendements. Il en reste encore 375 à étudier et qui n'a toutefois pas empêché l'adoption hier de l'une des mesures les plus contestées de ce projet de loi, à savoir le doublement de la durée maximale de rétention des étrangers en attente d'expulsion. Une durée maximale qui est donc passée de 45 à 90 jours. Un allongement qui n'a pas été voté par 9 des députés de La République En Marche, présents dans l'hémicycle, et alors que 5 autres se sont abstenus. C'est aussi au cours de ces débats parfois houleux qu'un autre dossier s'est donc invité, celui d'une opération anti-migrants menée dans un col des Hautes-Alpes par des militants d'extrême droite du mouvement Génération Identitaire. Altercation suivie par Julien Langlais.
La présidente du groupe socialiste Valérie Rabault, mais également le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, ont directement interpellé Gérard Collomb.
Je vous demande, monsieur le ministre d'État, ce soir, de réaffirmer l'autorité de l'État.
Gérard Collomb, nous ne sommes pas à l'abri de ces fous et c'est votre devoir de nous protéger et de protéger les migrants qu'ils veulent agresser.
Ne tombez pas dans ces panneaux.
Le ministre de l'Intérieur demande aux parlementaires de ne pas faire de publicité pour Génération Identitaire.
C'est le piège que vous tend aujourd'hui Génération Identitaire. Nous condamnons ces gesticulations.
Gérard Collomb et sa loi asile-immigration sont en partie responsables de cette situation, accuse Éric Coquerel, l'élu insoumis de Seine-Saint-Denis.
On vote une loi très dure sur l'immigration. Il y a un certain discours gouvernemental qui, quelque part, nourrit cette confiance des groupuscules d'extrême droite.
Je trouve ça assez immonde.
Olivier Véran est député marcheur de l'Isère.
Franchement, je pèse mes mots, assez immonde que d'aller faire croire que des milices d'extrême droite qui vont s'attaquer à des gens en situation de précarité dans une frontière pourraient être portées par un texte de loi en cours d'examen. Ça ne sert personne. Vouloir semer la division, ça m'énerve.
Une nervosité palpable chez tous les parlementaires, à laquelle la longueur des débats n'est bien sûr pas étrangère.
Reprise des débats ce matin, le vote final lui est attendu au mieux dans la soirée.
C'est le retour au calme ce week-end dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Après le dépôt par les zadistes vendredi soir d'une quarantaine de projets à la préfecture de Nantes, le calme semble en effet être revenu dans toute la zone de Notre-Dame-des-Landes. Un calme que l'un des agriculteurs historiques de la région, Sylvain Fréneau, espère vivement être le prélude à un retour à la normale. Sylvain Fréneau, micro d'Anne Patinec.
C'est complètement un soulagement. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement compétents pour refaire des cultures, faire du pain, faire de la bière même, pourquoi pas. Et c'est très intéressant, ça fait longtemps qu'on leur disait les gars, déclarez-vous, et puis au moins ça calmera le jeu, quoi. J'ai envie de dire aujourd'hui tout ça pour ça, quoi. Le résultat, c'est ce qu'a demandé la préfète, et c'est déclaré, c'est très bien, et faut que ça se calme, et faut que sur la zone, on retrouve une tranquillité, parce qu'on arrive au printemps, on a besoin de travailler, tout le monde a besoin de travailler, et ce serait bien de libérer les routes, ce serait bien de nettoyer un peu le secteur, quoi. Qu'on arrête d'entendre l'hélico jour et nuit, qu'on arrête de sentir les gaz lacrymo, et qu'on puisse travailler, emmener nos animaux dans les champs. Alors on sait qu'on a beaucoup de boulot à refaire des clôtures parce qu'il y en a beaucoup de saccagés, mais par tout le monde, hein. Pas que par les gardes mobiles, mais aussi par certains zadistes. Voilà, on a beaucoup de travail à faire, donc laissez-nous en paix, laissez-nous travailler.
300 personnalités du monde de la culture, des arts, de la religion, ou bien encore de la politique, droite et gauche confondues, mobilisées contre le nouvel antisémitisme en France. Résultat, un manifeste publié ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France de ce dimanche, avec des signatures aussi variées que celles de Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, Manuel Valls, ou bien encore Bertrand Delanoë, côté politique, Charles Aznavour, Françoise Hardy, ou bien encore Gérard Depardieu, côté artiste. Tous dénoncent une épuration ethnique dans certains quartiers, demandent que l'antisémitisme devienne cause nationale en France. Soulagement en Loire-Atlantique, le reliquaire en or contenant le cœur de l'ancienne reine de France, Anne de Bretagne, a été retrouvé. Ce coffret d'une valeur inestimable avait été dérobé dans un musée de Nantes. Il y a une semaine de cela, deux hommes de 22 et 23 ans ont été arrêtés.
Une commémoration aujourd'hui, le 30e anniversaire des événements tragiques d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie.
Oui, il y a en effet 30 ans de cela, jour pour jour, des habitants de l'île investissaient la gendarmerie de Fayaoué, tuant 4 gendarmes avant de se retrancher en compagnie des autres militaires pris en otage dans la grotte de Gossana. 15 jours plus tard, le 5 mai, les militaires donnaient l'assaut à la grotte. Une attaque qui fera 21 victimes. Le reportage sur le caillou de Malia Noukouan de Nouvelle-Calédonie Première.
Nous sommes à Gossana, dans le nord d'Ouvéa. Ici, le 5 mai 1988, 21 personnes perdaient la vie lors de l'assaut lancé par l'armée. 19 côtés indépendantistes et 2 parachutistes. Deux semaines plus tôt, le 22 avril, 4 gendarmes furent tués à la brigade de Fayaoué. Depuis, ces événements tragique, la situation s'est apaisée sur l'île. En 1998, les réconciliations entre les familles des militaires et les habitants de l'île ont permis de renouer les liens, comme en témoigne Jean-Marie Dassul, ex-gendarme et président du comité du 22 avril.
On a tissé des liens d'amitié parce qu'on avait les mêmes objectifs de paix. On voulait aller l'un vers l'autre, des objectifs de pardon, mais de pardon profond. Chaque année, à la brigade Ouvéa, viennent de plus en plus de personnes.
Et vice-versa, les gendarmes assiste également aux hommages rendus aux 19 jeunes gens d'Ouvéa tombés à Gossana. Les habitants ont appris à se reconstruire, même si, 30 ans après, la blessure reste profonde.
On n'a jamais été suivi par les psychologues. On a vu la guerre. Et on regarde à la télé, mais nous, la grotte, on l'a vécu.
Pendant 2 semaines, du 22 avril au 5 mai, Ouvéa vivra au même rythme que 88. Chaque jour, expositions et témoignages viendront rappeler l'histoire avec un regard tourné vers l'avenir.
Malia Noukouan, Emmanuel Macron sera le premier président à se rendre à Ouvéa le 5 mai prochain, venu diversement apprécié sur place. Emmanuel Macron, qui en attendant est attendu à Washington demain pour une visite de 3 jours aux États-Unis.
Et ça va redémarrer ce soir à la SNCF. Enfin, redémarrer, c'est une façon de parler, puisqu'il s'agit du 5e épisode de la grève des cheminots.
5e épisode et 10e jour de mobilisation, en effet, pour cette grève perlée. Mouvement qui reprend donc ce soir jusqu'à mardi. Une grève longue et pas facile d'un point de vue financier pour les cheminots engagés dans ce mouvement. Un bras de fer avec le gouvernement pour lequel les professionnels du rail ont dû s'organiser, si on en croit David Michaudet, aiguilleur à Saint-Jean-de-Laune et syndiqué à la CGT.
On s'est préparé à un long marathon. On a bâti un calendrier qui se calque sur le calendrier parlementaire. Donc voilà, tout le monde est prévenu, tout le monde est au courant, tout le monde connaît les dates. Financièrement, étant donné que les dates de grève changent de jour sur 5, ça permet un roulement des grévistes. C'est pas toujours les mêmes qui sont en grève, d'autres en repos, voilà. Donc ça permet à tout le monde de s'inclure dans le mouvement, s'impliquer dedans, et puis financièrement, pour le moment, on tient et on tiendra. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand même.
Des propos recueillis par Thomas Nougaillon. Du théâtre pour refermer ce journal, du théâtre consacré à la chanson. Une jeune comédienne et chanteuse, Gina Jamba, retrace actuellement au théâtre la vie de Nina Simone, décédée il y a 15 ans de cela, ceci dans une pièce intitulée Miss Nina Simone, une adaptation du roman de Gilles Leroy sur la fin de vie dans le sud de la France de la pianiste, chanteuse et compositrice américaine Stéphane Capron.
Je m'appelle Nina Simone et je suis musicienne.
Du lithium, du champagne, du gin, c'est le cocktail de la fin de vie de Nina Simone. Elle aurait voulu être une grande pianiste classique, elle est devenue une des grandes voix de la défense des droits civiques aux États-Unis. On découvre la face cachée de cette icône, c'est ce qui a touché la comédienne Gina Jamba.
Raconter sa vie, raconter ses turpitudes, raconter ses rencontres, raconter son rapport aux hommes, raconter sa maladie, la bipolarité et ses addictions diverses, le cancer. Bon, là, je dresse un tableau particulièrement sombre, mais c'est vrai, ça la représentait beaucoup.
On sent que c'est quelqu'un qui a souffert.
Souffert dès ce moment, je pense, de ses 11 ans, où elle donnait son premier récital, parce qu'en fait, elle n'était pas à sa place. Elle estimait qu'elle aurait dû rentrer à la Curtis Brown, donc une grande, grande école, et elle n'y est pas rentrée à cause de sa couleur de peau, en tout cas à l'époque. Elle était dans le rejet, dans la frustration, vraiment, elle avait vécu une vie très triste.
My baby don't care for...
Nina Simone aurait aimé être la Callas Noire. Elle est devenue une source d'inspiration pour plusieurs générations de musiciens. Ce spectacle lui rend hommage avec dignité.
And I'm feeling good.
Mmh.
Miss Nina Simone, c'est à l'affiche du théâtre du Lucernaire à Paris jusqu'au 2 juin. C'est la fin de ce journal. Et c'est à vous, Eric Desvaux. Et j'espère que vous vous sentez feel good.
Oui, toujours feel good. Le bon esprit dans ce 6-9 week-end. C'était le journal de Serge Martin.